C'est le moment de plus en plus attendu de rencontrer notaire Marie-Josée Saint-Laurent pour notre belle petite chronique juridique. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Vous allez bien?
Absolument.
Écoute, on a des, on a de plus en plus de commentaires, mais on a aussi de plus en plus de questions.
Oui, c'est bien.
Et là, on va se faire un méli-mélo de questions dont certaines peuvent paraître bizarres aux gens, mais il y a plein de sous-questions, il y a plein de questionnements autour de ça. Par exemple, je te soumets ce cas. Je signe une promesse d'achat-vente pour un édifice commercial. Le vendeur demande un dépôt qui me paraît excessif. Et là, il y a une question déjà, tu sais. Y a-t-il des normes ou des règles établies où chacun y va-t-il selon sa propre gourmandise?
Il n'y a aucune règle en regard à la mise de fonds, au dépôt qu'on peut faire au vendeur. Non. Ça fait partie des conventions. Lorsqu'on signe la promesse d'achat-vente, c'est là qu'on détermine le dépôt. Moi, je dis toujours aux gens que le dépôt ne devrait pas être trop élevé pour la simple et bonne raison que lorsque nous, les notaires, on fait la transaction immobilière, admettons, on va mettre des chiffres, ça va être plus facile. Admettons que l'immeuble vaut 200 000 $ il est vendu 200 000 $ et il y a une hypothèque sur cet immeuble-là à 195 000 $
Okay.
On comprend que si le notaire n'a pas 195 000 $ dans son compte en fiducie, il ne pourra pas rembourser le créancier et radier l'hypothèque existante.
Okay.
Donc, il faut, moi je dis toujours 5 % maximum. Mais ça, c'est moi qui dis ça. Mais c'est sûr que les vendeurs veulent avoir une sécurité qui vont finalement vendre la propriété. Et donc, c'est pour ça qu'ils demandent un dépôt. Mais lorsqu'on me pose la question, moi, je dis toujours aux gens que c'est pas un dépôt trop élevé parce que souvent, la clause dans la promesse, elle dit que si le vendeur décide de ne plus vendre, il doit remettre l'acompte et une somme supplémentaire du même montant à titre de pénalité.
Ah oui?
Et si l'acheteur, lui, décide de ne plus acheter, il perd son acompte. Donc, l'acompte, nécessairement, ne doit pas être trop élevé parce que sinon, la pénalité, elle est abusive.
Elle est abusive.
Absolument.
Oui, oui, oui. Ce que tu nous dis aussi, c'est qu'il n'y a pas c'est pas une norme, là. Il n'y a rien coulé dans le béton autour de ça.
Non.
Est-ce que ça se négocie au moment où les gens se rencontrent?
Effectivement. C'est un des éléments qui est négocié lorsqu'on signe la promesse d'achat-vente. Donc, souvent, le vendeur va demander un dépôt pour que l'acheteur démontre son sérieux dans la démarche. Et l'acheteur, lui, souvent, il va dire, je vais vous donner un dépôt parce que je ne veux pas perdre la maison.
Oui.
Donc, mais tout ça est une négociation qui se passe au même titre qu'au niveau du certificat de localisation ou au niveau de la prise de possession.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu, ça fait partie des éléments à être négociés.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir à ce moment-là le notaire agir un peu comme un arbitre s'il y avait abus, là, tu sais.
Ça arrive souvent que les gens, et d'ailleurs, ça devrait arriver plus souvent que les gens viennent voir son notaire, le notaire, pour signer cette promesse d'achat-vente-là.
Okay.
C'est là qu'on peut informer les gens, parce qu'une fois qu'il est signé, il est trop tard.
Ouais.
Là, l'accord est conclu, à moins que les gens soient d'accord pour la modifier, cette promesse-là. Donc, oui, le notaire est là pour expliquer tout ça, donc pour s'enligner de la bonne façon, parce que la promesse d'achat-vente, c'est le document le plus important dans la démarche de l'achat d'une maison ou de la vente d'une propriété, parce que c'est le premier document, c'est ce sur quoi le notaire se base pour faire le contrat final.
Mais tu dis, et c'est là où tu estimes qu'il serait important qu'on fasse ça devant notaire. Il y en a qui font ça pas devant notaire.
Ah, bien, il y a une foule de documents qui existent sur Internet. Institutions financières donnent aussi des exemplaires de promesses qui ne sont pas adéquats à toutes les situations.
Ouais.
Donc, c'est très important d'aller voir le notaire. Non pas que la promesse, elle est notariée. Elle est sous sein privé, donc sous forme de formulaire, mais le notaire accompagne les parties, l'acheteur, vendeur, pour la remplir et la signer avec toutes les informations requises pour comprendre ce qu'on signe.
Même exemple que le précédent, mais cette fois, le dépôt est raisonnable. Sauf que l'édifice passe au feu quelques jours plus tard. Ai-je droit à un remboursement automatique?
C'est ça qu'il faut se référer toujours à ce qui est écrit dans la promesse. Mais normalement, je vous dirais que si l'immeuble est détruit, l'objet de la vente n'existe plus. Ou à tout le moins, il est différent parce que là, on se retrouve avec un terrain. Donc, une promesse à 150 000 $ pour acheter une maison et qu'on se retrouve avec un terrain qui en vaut 25 000, on comprend qu'il y aura une modification. Donc, le vendeur, je vois mal le vendeur obliger l'acquéreur à signer ce contrat. Là à 150 000 $ L'objet de la vente n'est plus là, donc c'est sûr qu'il va y avoir une modification à la promesse d'achat-vente.
Oui.
C'est certain.
Donc, le dépôt, lui, là-dedans?
Le dépôt, normalement.
S'il a été fait, mettons, là.
Bien, c'est sûr que là, c'est l'objet de la vente qui est plus là. Moi, je verrais mal le vendeur garder le dépôt, là.
Oui, hein?
Mais c'est sûr que dans une situation comme ça, écoutez, ça fait 21 ans que ce que je pratique, ça ne m'est pas arrivé encore. J'ose espérer que ça n'arrivera pas.
Bien, non, parce qu'il y a un malheur là-dedans, quelque part.
Oui, effectivement, mais ça dépend aussi de la suite. Si le vendeur dit, bien, je vais me faire rembourser par les assurances et je vais reconstruire, es-tu prêt à acheter quand même?
Ah, il y aurait, oui, ça...
Ou l'acheteur, il dit, ben non, moi, finalement, je m'embarquerai pas là-dedans. Je veux l'avoir maintenant à la maison. Donc, là, ça prendra un certain temps. Je veux pas. Donc, il y a une foule de questions aussi à se poser suite à un événement comme ça.
Que le document qui est fourni par Pierre-Jean-Jacques
ne prévoit pas, ça, c'est certain.
Pas prévoir. Bon, ben, tu vois, on a déjà deux éléments. Un autre truc assez particulier. Appartient-il au notaire, au vendeur ou à l'acheteur de déterminer de l'historique d'un bien faisant l'objet d'une transaction terrain, maison ou autre? Est-ce vrai que cet historique peut remonter extrêmement loin dans le temps?
Bien, oui. En fait, c'est au notaire à faire ça. Le notaire est là pour faire les recherches au registre foncier pour les immeubles et au registre des droits personnels et réels mobiliers pour les biens meubles.
Okay.
Donc, lorsqu'on fait une vente de maison, on doit retourner, nous, la Chambre des notaires nous exige de retourner 30 ans en arrière. Donc, on fait une recherche sur 30 ans en arrière pour voir s'il y a des servitudes de vue, des servitudes de passage, des hypothèques qui seraient encore sur l'immeuble parce qu'elles n'ont pas été radiées, s'il ne manque pas un contrat, parce que ça arrive des fois qu'un contrat manque. Donc, là, il nous manque un maillon à notre chaîne de titre. Donc, il faut récupérer ce contrat-là, il faut le publier. Donc, il faut que tout que ça suive. Donc, ça, c'est au niveau immobilier, c'est au notaire de vérifier ça. Légalement, c'est au vendeur à déterminer, à dire à l'acheteur qu'il a un bon titre de propriété. Mais il n'y a pas un vendeur qui fait ça, c'est le notaire. C'est la job du notaire de le faire.
Oui.
Et le vendeur, lui, dans l'acte, déclare qu'il a un bon et valable titre de propriété.
Oui.
Mais c'est le notaire qui fait cette vérification-là.
Oui. Loin dans le temps?
30 ans.
30 ans?
Oui.
Est-ce qu'il pourrait arriver qu'il y ait des liens, des trucs qui dépassent le 30 ans et là que le nouveau propriétaire se fasse jouer?
Bien, en fait, on dit 30 ans parce que les hypothèques s'éteignent après 30 ans. Il y a un paquet de trucs qui s'éteignent après 30 ans. Nous, on dit 30 ans, mais on va de toute façon jusqu'au début. Mais on fait une recherche à vue qu'on appelle de l'index. Donc, toutes les transactions immobilières, on va jusqu'au début. Mais pour sortir les actes et les examiner un à un, c'est sur 30 ans en arrière.
OK. Et ça, c'est...
Pour les biens immeubles.
Oui.
Pour les biens meubles.
Oui.
Au niveau du RDPRM, donc le registre des droits personnels et réels mobiliers, les actes de vente ne sont pas publiés. Ce sont que les garanties. Une maison mobile est vendue.
Oui.
Elle ne sera pas publiée au RDPRM. Mais si elle est hypothéquée, l'hypothèque va être publiée au RDPRM. Une voiture.
Oui.
Si on vend une voiture, souvent, puis il y a d'ailleurs des annonces à la télé qui nous disent de faire la recherche au RDPRM, mais personne ne connaît ça, c'est le notaire qui souvent va voir
là,
ça.
Déjà, le RD...
RDPRM, c'est déjà du chinois
pour
bien du monde. Lorsqu'on achète une voiture usagée, c'est important de faire la recherche au registre des droits personnels réels mobiliers pour voir si ce bien-là n'est pas en garantie pour quelqu'un, parce que la garantie suit le bien. Donc, le créancier pourrait venir saisir dans les mains de l'acquéreur le bien pour une dette que le vendeur doit.
Je pourrais acheter une automobile de quelqu'un, puis il arrive un autre, puis il dit, regarde, moi, je m'en vais avec mon char.
Exactement. Donc, c'est important. Et c'est là l'importance du notaire. Des fois, on banalise les événements. Acheter une voiture, c'est banal dans les faits. Mais quand on se la fait saisir par un créancier du vendeur, ça commence à être moins banal.
Pas mal moins banal.
Effectivement.
Oh, il y a quelque chose là. Hein? Et puis, une dernière pour cette chronique-là, mais on a un petit peu de temps quand même. Un notaire est-il une ressource adéquate? Et là, j'en ai des sous-questions. Est-il une ressource adéquate pour rédiger une entente de partenariat? Parce que dans mon temps, on appelait ça un contrat de partnership.
Oui.
C'est-tu le notaire qui...
Effectivement, c'est le notaire ou les avocats, mais les notaires, on est très habilités pour faire ça.
Mm-hmm.
Et il faut... Je fais vraiment une mise en garde. Souvent, les gens qui sont en affaires, qui sont en compagnie avec deux, trois autres personnes, sont incorporés, ont chacun leurs actions.
Oui.
Ils prennent une assurance vie sur la tête des actionnaires. Puis, dans leur tête, ils disent, s'il y en a un qui décède, l'assurance vie sert à racheter les parts et c'est tout. Mais l'assurance vie, c'est l'accessoire. Le contrat, le principal, c'est le contrat. On appelle ça une convention entre actionnaires.
Ouais, attends un petit peu, tu es en train de me perdre.
OK. Une convention entre actionnaires, c'est une convention dans laquelle les actionnaires déterminent qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui décède.
Okay,
qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui devient inapte. Qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui est accusé de fraude. Et là, c'est, dans cette convention-là, les actionnaires obligent la compagnie à racheter les actions de la personne décédée, inapte ou frauduleuse.
D'où la dite assurance-vie.
Assurance-vie lorsqu'il y a un décès.
OK.
Donc, souvent, les gens, eux autres, ils pensent que juste à prendre l'assurance-vie, ça l'oblige la succession de l'actionnaire décédé à vendre à la compagnie les actions. Non, parce que l'entente n'est pas là. Donc, nécessairement, la convention entre actionnaires doit exister. L'assurance-vie, ce n'est que l'accessoire qui sert à racheter les actions. Mais la convention entre actionnaires, ça détermine plein de choses. Ça détermine les droits de vote, ça détermine justement les conditions. Qu'est-ce qui arrive si une personne décède? Qui rachète? À combien? L'inaptitude aussi. On ne veut pas avoir un actionnaire inapte. Donc, on rachète les parts. Mais ce sont les actionnaires entre eux qui s'entendent dans cet écrit-là pour forcer, en fait, entre guillemets, la succession si c'est un décès ou la famille si c'est une inaptitude ou le frauduleux, l'actionnaire frauduleux, à vendre, à revendre ses actions dans la compagnie. Et toutes les conditions sont écrites dans la convention.
Okay. Deux choses. La première, est-ce qu'une entreprise, mettons, elle est déjà existante, est-ce qu'il est trop tard là, pour aller faire le...
Il n'est jamais trop tard pour faire une convention entre actionnaires. Vaut mieux tard que jamais.
On a incorporé, puis là, on se dit au bout de 3-4 ans, on n'a rien qui nous protège.
Effectivement.
On s'en va voir un notaire, puis il n'y en a pas de convention maintenant, puis il y a une compagnie, puis un des actionnaires décède, qu'est-ce qui se passe avec sa part?
Bien, sa part, elle tombe dans son patrimoine et elle sera léguée selon s'il a fait un testament ou pas. Et là, l'autre actionnaire, admettons qu'ils sont deux, donc là, l'actionnaire restant se retrouve copropriétaire d'une compagnie avec l'épouse, les enfants, ça peut être des enfants mineurs, ça peut être un cauchemar.
Oui.
Donc, et on ne veut pas ça.
Non.
Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une convention entre actionnaires qui oblige la compagnie à racheter les actions de la personne décédée.
Autrement dit, cette personne décédée-là, ses héritiers n'ont plus, si le contrat est fait, là.
Exactement. Donc, dans la succession, les héritiers n'auront pas des actions de compagnie, ils vont avoir des sous.
OK. Mais est-ce qu'il faut évaluer la part du monsieur?
C'est évalué normalement à chaque année. Donc, à chaque année, on fait les rapports d'impôts et tout ça, et on détermine la valeur. Et nécessairement, l'assurance-vie doit toujours être réadaptée, doit être évaluée et augmentée s'il y a lieu pour être égale au montant de la valeur de chacune des parts.
Oh, mais ça peut éviter aussi beaucoup de problèmes de type... 3 ou 4 actionnaires, un décède, puis comme tu dis, on se retrouve avec la famille au complet.
Et voilà.
Dans l'entreprise. C'est extrêmement intéressant, Marie-Josée. On a fait le tour de ces questions-là, puis de notre temps aussi un petit peu, mais c'est parfait. Dis-moi, je voulais juste inviter les gens. Continuez, parce que les gens ont l'air d'avoir une espèce de petite inquiétude de venir me voir pour me dire, Mandon, il n'y a pas de problème. Parce qu'au Salon des aînés, récemment, il y a plein de gens qui sont venus me demander des choses dont on vient de discuter ce matin.
Mais oui, continuez, c'est ça qui entretient notre chronique.
On est là pour ça. Merci Marie-Josée, à la prochaine.
Merci.
Bye bye.